Non, elle n'a pas encore appelé. Ah, oui, non, elle n'a pas encore appelé.
Elle ne veut pas graffer pour les juifs, elle ne veut pas graffer les arts.
Voilà. Juste à temps. Allô? Juste à temps. Oui, on a failli commencer sans vous. Non, mais c'est on ne peut pas savoir. C'est... Des fois, on commence à l'heure, des fois, on commence très en retard. Ça dépend. Chabes. Le Midrash Rabbah là, qu'on a, il voulait en fait regarder ce qu'il disait sur les Aseret HaDibrot, sur les commandements. Il parle pas de... Enfin, sur place ici, il parle pas très longuement des Aseret HaDibrot elles-mêmes. Il parle en amont. Il parle d'avant. Après, il parlera la première parole, le Anochi, surtout. Mais on a maintenant tout un chapitre Kafret, un parasha Kafret sur 28, sur qui commence, qui parle d'avant, juste avant Aseret HaDibrot, avant le don de la des luchot, des tables de la loi. Alors, ça commence par un commentaire, donc où Moshe alla El Ha'elokim. Moshe est monté littéralement vers Ha'elokim. On va pas pour l'instant parler de cela, mais c'est intéressant de... Il ne s'agit pas d'une montée vers Hachem, ce n'est pas le tétragramme. D'accord ? C'est Elohim. Et même Ha-Elohim. Daoud Irtiv, alors le Midrash ici, il commence son commentaire ici en s'appuyant sur un pasouk dans Teilim. David Ameler dit dans les Teilim, Alita Lamarom, Shavita Shevi. Tu es monté, tu t'es élevé dans les hauteurs, et tu as fait un prisonnier. Maou, alors le Midrash demande Maou Alita. Qu'est-ce qu'il faut entendre par « tu t'es élevé » ? Alors le Midrash dit « nit alita ». C'est pas « tu es monté », mais « tu t'es élevé ». Toi-même, tu t'es retrouvé en haut en quelque sorte. Et puisque tu étais là-bas, alors, nidgashashta imam malachim shel mala. Tu t'es confronté, tu en es quasiment venu aux mains, si on peut parler comme ça, avec les anges d'en haut. Autre chose, autre lecture. Alita lamarom. Tu es monté sur les hauteurs. Alors le Midrash dit ici, l'accent est sur le « tu es monté ». C'est-à-dire, le Midrash, lui, il entend ici « chez lo shalta b'riya b'rial milmalan keshem sheshalat Moshe ». C'est-à-dire, il n'y a jamais eu de créature qui a eu autant de pouvoir dans le monde d'en haut que Moshe. comme si le tu de Alita, tu es monté, était exclusif. Toi, tu es monté. Personne d'autre n'est monté comme tu es monté. Amar Rav Brechia, on a l'impression qu'il parle de tout à fait autre chose. Rav Brechia dit Haluchot ayu okan shisha tfachim. Ça, c'est déjà dans la Gemara aussi. Les luchot, elles avaient 6 tfachim de long. Si on prend les tfachim comme on les compte, aujourd'hui, disons en gros, il avait 60 cm de long. Un tefar, c'est 8 ou 10 cm, mais si je prends 10 cm, donc en tout et pour tout, ces fameuses luchot, c'était pas très long. Tfichim, c'est 60 cm. Pardon ? Ben, il n'y en avait pas d'autres. Kvayachol, ayu beyad mi she'amar ve'aya olam shne tfachim. Si l'on peut dire, deux tefar, donc le premier tiers était dans la main de celui qui a dit et le monde a été, donc c'est dans les mains de Elohim, Hashem. Ou bien Doshel Moshe Shnetfachim, dans les mains de Moshe il y avait deux tefar aussi, il y avait aussi 20 cm dans celle de Moshe. Ou Shnetfachim, deux tefar, 20 cm, ayou Mafrichin ben Yad le Yad. Il y avait 20 cm qui séparaient entre une main et l'autre, c'est-à-dire entre la main d'Hachem et celle de Moshe. Bon, alors comme d'ordinaire, on va aller jusqu'en bas de la fin de ce paragraphe, et puis ensuite on essaiera de voir si on y comprend quelque chose. Encore une nouvelle chose. D'avoir à faire. Alita la marom, shavita shevi. Maintenant, l'accent est mis sur shavita shevi. Tu as fait un prisonnier ou une prisonnière. Benoeg, sheba olam, d'ordinaire, anichnas lemdina, notel davar shein ain nemdina alav. D'ordinaire, quand quelqu'un arrive dans un pays, il ne se précipite pas sur les choses auxquelles les gens du pays tiennent. S'il prend quelque chose, il fait les choses discrètement, il s'occupe des choses dont les autres, a priori, des choses auxquelles les autres n'accordent pas une trop grande valeur. Moshe, il a fait exactement le contraire. Moshe alla la marom. Venatal et ta Torah, Shayu, Akol Nosim Enem Alea. Et il a pris la Torah que tous, sur laquelle tous avaient les yeux fixés, c'est-à-dire tous. C'était le trésor. C'est ça. Eve, c'est ça le pasuk. Alita la marom, Shavita Shevi. Yachol mipne, Sheshava ota natla chinam. On aurait pu penser que puisqu'il l'a fait prisonnière, alors il l'a prise gratuitement, c'est-à-dire simplement gratuitement, ça veut dire sans effort. On te dit seulement il est venu, il l'a fait prisonnière. Comme si c'était facile. Dire. On va voir tout de suite. Talmud Lomar. La carta matanot ba'adam. Le pasuk dit la carta matanot ba'adam. Le pasuk nous dit que en fait c'était des cadeaux. Ça lui a été donné comme un cadeau. Alors, Bilkicha Nitnalo. il l'a pris, il l'a eu. Yachol yechayav liten lo damim. Peut-être que, bon, on t'a laissé prendre, mais il va falloir payer pour ça. Talmud lomar matanot, non, c'est un cadeau. Le matana nitnalo, ça lui a été donné par matana. Beota sha'a, à ce moment, bikshu malachi asharet livgoa be Moshe. À ce moment-là, les anges de service ont voulu attaquer Moshe. Alors, ici, il se passe quelque chose de quasiment incompréhensible. Pas pour dire que le reste, on l'a compris, mais... Asa HaKadosh Baruch Hu Klasterin Shel Panav Shel Moshe Domé l'Avraham. Hachem a modifié le visage de Moshe. Il a transformé le visage de Moshe de telle sorte que il puisse être confondu, il ressemble à celui d'Abraham Avinu. Amar lahem Akadosh Baruch Hu, on est en haut là. Amar lahem Akadosh Baruch Hu, iatem mitbaishim emenu. N'avez-vous pas honte devant lui? L'oseus, n'est-ce pas celui, c'est ça qui est difficile, n'est-ce pas celui chez Irate Metzlov et Achalte Betor Beto? N'êtes-vous pas descendu chez lui? N'avez-vous pas mangé chez lui? Amar Kadosh Baruch Hu le Moshe, lo nitna lecha Torah, ela bizchut Abraham. Surtout, ne t'imagine pas que tu reçois la Torah par ton propre mérite. Je ne t'ai donné la Torah, la Torah ne t'a été donnée que par le mérite d'Abraham. Comme c'est marqué dans le Passouk, la carta matanot be'adam, ve'en adam ha'amour kan el Abraham. Et le Adam ici, tu as pris des, en quelque sorte, il faut le lire, tu as pris des cadeaux, be'adam, grâce à Adam. Qui est ici Adam? Adam, le Adam qui est cité ici, c'est Abraham. Shenemar, Adam Hagadol Ba'anakim. C'est marqué dans le Passouk, l'homme, le grand parmi les géants. C'est ça. Ou Moshe Allah El Ha'eloki. Voilà. Voilà le paragraphe. Oui, bien sûr.
Et là, maintenant, on dit oui, mais bon, c'est pas ton mérite, c'est parce que à l'entrée, il y avait eu la Torah.
Ça voudrait dire. De ce que vous soulevez comme problème, la Torah est appelée Torah Moshe. Zichut Torah Moshe Avdi. D'accord. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Et on dit que la Torah, elle appartient à Hachem. Et quand on l'étudie, ça devient notre Torah. Torah Tenu. C'est notre Torah à nous. Là, Moshe Rabbeinu a étudié la Torah, c'est devenu sa Torah. Et non seulement cela, mais c'est vraiment lui qui l'a reçu. Lui, personnellement, Moshe. Pas le clan d'Israël, lui. Bon, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Moshe Rabbeinu. Les camarades d'Andarim ont dit que Moshe Rabbeinu, par générosité, il l'a donné au peuple d'Israël. Bonsoir, Gad. Bonsoir. D'accord. Par générosité, il l'a donné au peuple d'Israël. Alors là-dessus, pour que ce soit tout de suite clair, qu'est-ce que ça veut dire ça? La Torah, il a Moshe Rabbeinu, quoi, il a la gardée pour lui. Alors, on a peut-être déjà vu. Non, mais tu ne peux pas les laisser passer sans leur donner.
générosité, pas pour toi.
Vous vous souvenez, on a peut-être déjà parlé de ça. Hein. C'est marqué dans Nitzavim, c'est marqué. Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, enfin, maintenant vous, je vois que vous comprenez quelque chose à la Torah. Chazal explique que Moshe a écrit le Sefer Torah. Il a fini d'écrire le Sefer Torah. Il voulait confier le Sefer Torah. Bonsoir. Il voulait confier le Sefer Torah à la tribu de Lévi. Et alors, les Bnei Israël ont énergiquement protesté. Et ils ont dit, il n'est pas question que ce soit la tribu de Lévi qui soit dépositaire de Sefer Torah, parce qu'après ils nous diront, la Torah elle est à nous, etc. Alors, la question qui se pose, mais qu'est-ce que c'était que cette histoire ? Dans la Torah, évidemment la Torah ne concerne pas que les Lévi, mais c'est marqué partout, d'abord Hachem, elle... Moshe est mort pour le dire au Bnei Israël et pas d'Afka Olvim ni à personne. Seulement le problème c'était le suivant, c'est que si les Olvim avaient eu l'exclusivité du Sefer Torah, alors eux auraient été ceux qui étudient le Sefer Torah, ceux qui vont étudier. Si vous voulez, avec notre langage, on dirait aujourd'hui, ceux qui vont fabriquer la Mishnah, développer la Mishnah, la Gemara, la Halakha, et puis bien entendu, ils vont la donner, cette Halakha, au Bnei Israël. Ils vont leur dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut le faire, etc. Mais ce que les Bnei Israël ne voulaient pas, ils ne voulaient pas qu'on leur donne le dalos de la Torah, ou le Shulchan Aruch. Ils voulaient être les artisans de la construction, du développement de la Torah. Et c'est pour ça que mon cher Rabbi nous dit, maintenant seulement je vois, maintenant voilà. Ah, vous avez enfin compris quelque chose de la Torah. Vous avez bien compris que la Torah, ce qu'on vous donne ici, ce n'est pas du tout une loi qui serait toute faite. Il n'y a pas de loi. Il s'agit, ce qu'on vous donne, c'est ce qui va vous permettre de fabriquer une loi. C'est tous les éléments que vous allez développer avec l'herméneutique, avec toutes certaines, avec évidemment des règles, qui vont vous permettre de développer et de fabriquer une loi. Une loi. Mais comme on vient de le voir dans le chiot précédent, une loi qui n'arrête pas de bouger. On a vu sur cette histoire, on a vraiment vu, ça bouge. C'est seulement pour ceux qui écoutent le cours d'avant. Il faut qu'il y ait quand même un bénéfice. En tout cas, c'est pas l'important. C'est d'être dépositaire, non pas d'une loi, mais justement de la Torah qui n'est pas une loi. Les gens ils s'imaginent toujours qu'il faut traduire la Torah par la loi. C'est pas vrai du tout. La Torah c'est pas la loi. La Torah c'est tout ça. C'est tout ce bouillonnement permanent. À partir duquel, effectivement, on va établir une loi qui, elle, va continuer de bouillonner et de bouger sans cesse. Et c'est quand ils ont compris qu'ils ne voulaient pas qu'on leur dise ce qu'ils avaient à faire. Un peu comme les prêtres égyptiens disaient aux gens, voilà, ben c'est comme ça, le culte de la divinité, c'est comme ça, et tu fais ceci, tu fais cela, tu apportes ça, tu donnes ça, etc. Tu dis telle et telle parole. Pas du tout. Ils ne voulaient pas de ça. Et donc Hachem, Moshe Rabbeinu a dû écrire un Sefer Torah pour chaque tribu. Il a dû déposer un Sefer Torah dans chaque tribu, plus un Sefer Torah dans le Haron, comme témoignage s'il y avait des doutes, etc. Et donc, cette idée que la Torah, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu, la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il n'a pas donné la loi au Bnei Israël. Moshe Rabbeinu, bien entendu, il aurait pu dire la loi au Bnei Israël. Il étudie la Torah et il leur dit voilà ce qu'il faut faire. Il aurait pu être, lui, le seul législateur. Et sa Tovat Haïn, la générosité de Moshe Rabbeinu, c'est d'avoir donné la Torah au Bnei Israël pour que tous les Bnei Israël puissent participer à l'élaboration. J'ai dit, je ne sais pas si c'est pas avec vous, j'ai dit que la spécificité du Klal Israël, je voulais ce qu'on voit justement au Sinaï, c'est que le Klal Israël n'est pas un peuple qui a reçu une loi, comme tous les autres peuples. Chez nous, chez les Bnei Israël, la loi précède le peuple. Il n'y a pas de peuple avant la Torah. C'est pas la loi, c'est... Nous ne sommes devenus un peuple qu'au Sinaï. Il n'y a pas de peuple juif avant. Donc il y a d'abord une loi, ou d'abord, si vous voulez, cette chose qui n'est pas vraiment seulement une loi, mais qui est une espèce de base. Et le peuple est quasiment une émanation, quasiment une concrétisation de la Torah. Pardon ? Oui, mais ce n'est pas un peuple. Quand ils sortent d'Égypte, ils ne sont pas un peuple. C'est marqué dans toutes les étapes là, qui mènent jusqu'au Sinaï, c'est toujours marqué Vayechanou, ils ont campé. Juste au pied du Sinaï, c'est marqué Vayechan, il a campé. C'est-à-dire, jusque-là, c'était des individus, et au pied du Sinaï, c'est le clan d'Israël a campé. Le campement, l'unité s'est faite au pied du Sinaï. Question de savoir, c'est pour recevoir la Torah ou c'est la Torah qui les a unifiés. En tout cas, il n'y a pas de klal. D'ailleurs, vous voyez qu'il n'y a pas non plus de klal. Ça se voit dans le Korban Pessah. Le Korban Pessah, c'est un Korban où tout le monde fait la même chose. Alors, on aurait dû faire du Korban Pessah, même nous, quand on apporte le Korban Pessah, quand on l'apportera, même nous n'apportons pas à Pessah, comme Korban Pessah, la même chose que dans les autres fêtes. D'accord ? Dans Shavuot, Sukkot, etc. On apporte un Korban, bon, il est peut-être à plusieurs têtes, ce que vous voulez, mais un Korban pour tout le clan d'Israël, pour tout le peuple. Ou si vous préférez, le Korban qu'on apporte deux fois chaque jour dans le Beth Amikdash. Celui qu'on apporte à l'ouverture du Beth Amikdash, le Korban qu'on appelle Tamid. Celui qui est à l'ouverture du Beth Amikdash, c'est celui qu'on apporte à la fermeture du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il est fermé de nuit. Ce Korban-là, c'est un Korban qui s'appelle Korban Tzibur. C'est un Korban de la collectivité, du Klal Israël lui-même. On apporte un seul Korban pour tout le clan d'Israël. Dans le Korban Pessah, on n'en était pas là. Alors, on apporte, c'est le Bet Avot, on apporte un agneau pour ce qui s'appelle Bet Avot, c'est-à-dire, c'est la famille élargie. C'est-à-dire, on élargit, c'est-à-dire, on forme un groupe. Forme un groupe donc qui est adéquat à la quantité de viande qu'il y a dans l'agneau qu'on va manger, puisqu'on, comme c'est un corban, on ne doit pas en laisser. Et comme on le mange à la fin du repas, on ne peut pas en manger beaucoup. On mange seulement un kezaït. Donc, à la limite, il y a 300 personnes qui sont sur chaque agneau. Bon, un kézaïd, si un kézaïd c'est 30 grammes, et si un agneau il fait, je sais pas, 9 kilos. Combien ça fait, Ezra? Combien vous m'aviez dit? Ezra? Un agneau, ça fait combien de viande? Non, de viande elle-même. 15 kilos. Bon, alors moi, pour les besoins de la cause, il n'aura que 9 kilos celui-là. Parce que, pour la différence. Donc, comme ça fait 30 grammes et que fait 9 kilos, d'accord, donc il y a 300 personnes. D'accord, il y a 300 personnes qui mangent un kézaït sur chaque agneau. C'est une famille élargie, c'est plusieurs familles qui se mettent ensemble, mais on apporte un corban pour chaque groupe. On n'apporte pas un corban pour tout le monde. Il faut bien montrer qu'au sortir de l'Égypte, c'est des groupes de gens. Ça ne forme pas un peuple encore. Il n'y a pas de peuple. Nous ne sommes pas un peuple. Le seul qui parle du peuple d'Ebné Israël, d'ailleurs, c'est Paro. Lui, il parle du peuple d'Ebné Israël. Ils sont issus de Shvatim, mais ça fait pas. Il n'y avait pas de peuple encore. Même probablement, même les Shvatim. Les gens, pas oublier, c'est des esclaves, et donc chacun est à la recherche de son souffle, quoi. Donc c'était le chidouche, c'est que après le Gaon de Vilna, dans la Torah, quand on a dit que chaque homme devait emprunter à son voisin des plats de d'or et d'argent, chaque femme à sa voisine, à son prochain, à sa prochaine. Le Gaon dit qu'on trouve nulle part dans la Torah que le prochain ce puisse être un Égyptien. Donc là-bas, hein, c'est obligatoirement chez les Juifs. Donc ce qui s'est passé, c'est que il fallait qu'ils empruntent les uns aux autres pour tisser des relations de chesed, des relations entre les Bnei Israël. Parce que comme c'était des esclaves, chacun était occupé à trouver de quoi respirer, de quoi manger. Donc il n'y avait pas de lien entre eux. Il faut commencer à tisser pour qu'ils puissent sortir d'Égypte. Il faut commencer ce tissage, en quelque sorte, par le biais des relations de chesed, de relations de générosité. Je te prête, tu me prêtes, etc. De don et contre-don, si vous voulez. Après, il y a une autre chose, ils ont emprunté finalement en Goïm aussi. Mais c'est pas, là-bas, c'est marqué Shrenim, et pas Réacha, pas Réouta. Pour créer des relations. Si tu me prêtes et je te prête, ça crée des relations entre les gens. Il n'y en avait pas, on ne se prêtait pas. On ne prêtait pas parce que. Bon. En tout cas, après le Gaon, c'est ça le chat. Il fallait fabriquer du lien. Non, alors on n'a pas rendu le. Il faut pas faire un cours sur le fromage, mais c'est ma faute, j'aurais pas dû vous parler de ça. Le Gaon explique pourquoi que c'est Mida Keneged Mida, comme toute la réduction des Bnei Israël en esclavage s'est faite par la ruse. Alors Hachem a rusé avec Paro pour faire sortir les Bnei Israël, parce que on est dans le monde qu'on construit soi-même. C'est nous qui construisons le monde dans lequel nous vivons. Donc Paro a construit un monde de Ramaout, de ruse, de tromperie, il est dans ce monde-là. Le monde, c'est nous qui le fabriquons. Nous fabriquons le monde dans lequel on vit. Non, non, après, ça c'est une autre chose. Après, au temps d'Alexandre, ils sont venus, ils ont dit, ils sont venus réclamer, ils ont dit, mais les Israéliens ne nous ont jamais rendu l'or et l'argent, etc. Alors la Gemara, elle rapporte que ils ont demandé, donc ils disent, il faut nous donner Eretz Israël en paiement. Alors il y a un des plus jeunes Tanaïm, un des plus jeunes Tanaïm qui dit, ok, laissez-moi aller négocier, si ça marche bien, ça va très bien, si ça marche pas, vous direz, oh mais c'est un petit jeune, il n'avait même pas vos chapitres, donc il n'avait pas besoin de... Et vous irez dire ce que vous voulez dire. Il est allé, il a demandé aux Égyptiens, donc le procès était devant Alexandre, Et il a demandé aux Égyptiens, sur quoi vous basez pour dire qu'on vous doit tout ça? Alors, ils ont dit, bon, on se base sur la Torah elle-même, c'est votre texte. Alors, il dit, bon, ben, puisque vous vous basez sur la Torah, je me baserai aussi sur la Torah. Dans la Torah, c'est marqué qu'on était esclaves 430 ans. Et il a fait le décompte, 430 ans, esclavage, combien de personnes on était, etc. Et il a fait l'addition. Bon, vous restez nos devoirs, avec tout ce qu'on nous soustrait, tout ce qu'on vous a emprunté, vous restez nos devoirs, ils sont partis. Ça, c'est la suite. Bien, pourquoi je vous raconte tout ça? Oui, parce que, bon, il faut comprendre que la Torah, elle a été donnée effectivement à Moshe lui-même. Mais ce qu'on a donné à Moshe, c'était bien sûr que Moshe allait dire aux Bnei Israël ce qu'ils avaient à faire d'après la Torah. Mais ce n'est pas ça le don de la Torah. Bon. La Torah n'est pas une loi comme une autre qu'on pourrait donner. Même extraordinaire, même divine, même tout ce que vous voulez, ce n'est pas une loi. C'est une espèce de corps vivant. S'élabore sans cesse. Et dans laquelle tout le monde peut intervenir. Bon, il ne faut pas être obligatoirement Cohen ou Lévi pour avoir droit à la parole. N'importe qui veut étudier, il peut étudier. Et s'il a des choses à dire et que ce qu'il a à dire est critiqué par les autres gens, et ça tient la route, critique au sens positif du terme, et ça tient la route, et bien ça va être intégré. Quel que soit le bonhomme qui l'a dit. On peut être Hillel qui était économiquement mort, pas un sou, rien du tout, et pourtant vous savez bien combien de choses, aujourd'hui encore, sont des enseignements qui nous viennent d'Hillel. Le Bedin, qui c'est le Bedin?
Voilà le problème.
C'est pas un problème. Pas du tout. Pas du tout. Mais oui, c'est juste. Vous avez raison. On tranche. C'est ça là. Oui, mais le Bedin, c'est les sages. C'est un groupe de gens qui sont spécialisés, disons, et qui vont trancher, qui sont acceptés comme tels et qui tranchent.
Ils vont trancher, en fait,
selon la Torah, bien entendu.
Selon la Torah, mais selon aussi le cas.
Bien entendu, donc, selon le cas.
Qu'est-ce qu'on dit en cours précédent, même dans la Shulchan Aruch qui est normalement là pour pencher la fin, il y a encore des discussions.
Mais bien sûr, parce que il y a des maîtres, parce que c'est jamais fini.
Vous avez un problème ici.
Mais vous avez un problème ici, vous allez chez les maîtres d'aujourd'hui.
Vous
entendez? Vous avez un problème ici, vous allez chez les maîtres d'ici.
Voilà.
Et maintenant. Alors, bien sûr, il y avait des plus grands avant, mais ils ne sont plus là, donc maintenant, c'est les maîtres d'aujourd'hui qui décident. Évidemment, les maîtres d'aujourd'hui décident, riches de tout ce qu'ils ont appris de leurs maîtres à eux, etc. Mais ils peuvent dire des choses nouvelles. Quand on a vu ce qu'on a vu là, maintenant, c'est là, oui. Ce qu'on vient de voir, très bien que les choses ont bougé. Bien. Bien. Alors, il est clair que une phrase comme celle de où Moshe Allah et la Elohim, ça veut rien dire pour nous. Donc, ça veut dire qu'il est monté. Il y a une échelle. Alors le Midrash, il a un problème. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Allah. C'est pour ça qu'il demande. Qu'est-ce que c'est? Mahu Alita. Ça veut dire, il a grimpé à une échelle, il a pris l'ascenseur. Qu'est-ce qui se passe? Entre eux?
Allah et Alita.
Non, mais Alita, c'est toi. Et Allah, c'est il. C'est la même chose. Moshe, Allah, et quand on lui parle, Alita, toi, tu es monté. Alors, le premier essai que fait le Midrash explique Alita, nit Alita. Qu'est-ce que ça veut dire? Nit Alita, ça veut dire tu t'es trouvé au-dessus d'eux, c'est-à-dire, regardez si vous voulez, regardez le Etz Yosef dans la marge de gauche. Dans la colonne de gauche. Idgashashta imam alachim. Il explique Alita inyan nitzachon. Vitavkut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu as gagné. Tu t'es battu et tu as gagné. Alita la marom, c'est-à-dire tu t'es battu et tu as gagné contre les malachim d'en haut, contre les anges. Pourquoi est-ce qu'il a fallu, comme il dit, Gashashta, quasiment il en est venu aux mains avec les anges. Pourquoi? Parce que les anges ne voulaient pas lui laisser prendre la Torah. Il a fallu se battre. C'est ça le sens de Alita Lamarom. Il y avait un conflit. Alors, il y a les Malachim Shelmala. Les anges d'en haut. Alors, on dit, il y a donc ces anges. Et la deuxième chose que dit le Midrash, c'est qu'aucune créature n'a eu autant de... Enfin, n'a réussi à prendre le pouvoir en haut, comme Moshe l'a fait. Donc, régler ce problème-là, pour le Midrash, c'est quoi? C'est dire que il y a un problème qui est le problème de la descente de la Torah sur terre. La Torah, elle est présentée ici comme étant dans le monde d'en haut, comme quelque chose d'abstrait. Quelque chose d'abstrait. C'est la parole divine, si vous voulez. Et la nouveauté, c'est que mon cher Abbé nous va prendre le pouvoir sur cette Torah, il va la prendre et il va la descendre. Il va la redescendre sur terre. Donc, justement, cette Torah ne va pas rester un objet de spéculation, mais il va falloir descendre cette Torah au sens où elle va devoir être vécue par les hommes. Et pas vécu par les anges, ça veut dire c'est absolument pas concret. C'est peut-être un objet de spéculation, c'est ça que ça veut dire. Alita lamarom shavita shevi, ça veut dire quoi? Un prisonnier, c'est quelqu'un qu'on prend dans son territoire et on l'amène dans un autre territoire où celui qui l'a pris est le maître. Donc il y a une mainmise en fait de mon cher Rabbeinu sur la Torah qui se fait contre les anges. Qu'est-ce que ça veut dire contre les anges?
C'est parce qu'il
se bat. Oui, il se bat pour la prendre. Pardon? Il voulait prendre l'original. Et il n'y a pas de copie, ça n'a pas de sens.
Non, parce qu'on ne voit que c'est Hachette qui lui déplaît, qui l'écrit dans la langue.
Oui, ça c'est aussi vrai. C'est la suite. Ce sera en bas. Qu'est-ce que ça veut dire que Qui sont les anges là, dans le Midrash? Qu'est-ce que ça veut dire, il a lutté contre les anges? Oui, bien sûr, mais nous aussi on est créatures d'Hachem.
Non,
mais toi et moi, tous les créatures d'Hachem.
Je comprends pas que on dit que les gens,
De quoi des?
Des
anges?
Ah! Des anges
morts ou des anges? Non, 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 ça c'est autre chose. Ça fait ça, vous parlez d'autres anges. Vous parlez du fait que quand on a. Oui, il existe de tels anges qui sont la résultante, c'est l'impact de l'homme sur le monde. Quand vous faites quelque chose de bien, le monde est modifié dans un certain sens. Et donc il y a des anges positifs, si vous voulez. Quand on fait quelque chose de mauvais, il existe quelque chose de mauvais dans le monde. Ça, c'est les anges de service. Ceux-là, ils ne sont pas créés par les hommes. Ils sont là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, avant les hommes, même. Ça, c'est pas très difficile. Nous avons été créés tout à la fin. Tout existe avant nous. Donc ça, c'est pas difficile. Ils existent avant nous, c'est pas une nouveauté. Le ver de terre aussi, il est créé avant nous. Ces anges-là qui s'y opposent, c'est... Quand vous réfléchissez, vous pourriez dire que, est-ce que la parole d'Hachem, elle va s'occuper de quoi? Elle va s'appliquer à des... Elle va s'appliquer pour savoir est-ce que dans les endroits où il y a trop de saleté, est-ce qu'on peut réfléchir à la parole d'Hachem? Est-ce qu'on peut... Il va falloir que ça descende dans l'archi-concret. D'accord? Et on va s'occuper de savoir... voilà, quand tu veux manger de la viande, alors il faut couper trancher l'œsophage et il faut couper avec un couteau sans aucun défaut. Ça n'a pas de sens. On peut toujours dire, mais la parole d'Hachem, elle ne peut pas s'occuper de ces choses-là. C'est la ta'ana, c'est l'argument des goïms qui disent Hachem ne s'occupe pas de ces questions-là. C'est une espèce de lèse-majesté de vous voyez, le roi va s'occuper de même l'intendance, elle doit suivre, c'est tout, mais on ne va pas s'occuper de l'intendance. Il y a le problème de la pureté, de l'impureté, il y a le problème même du concret, de la matière. Il faut s'occuper de ces questions-là. Alors, on peut se demander, et donc l'idée que les anges s'y opposent, c'est cette idée que on ne peut pas, en quelque sorte, salir la Torah à la descendre comme ça. À la descendre dans le monde concret. Et ce que Moshe Rabbeinu a fait, il l'a prise et il la descend. Et bon, ici dans ce midrash, ça c'est pas marqué. C'est marqué que Hachem a dit aux anges, enfin, il l'a soufflé à Moshe de leur dire, est-ce que dans la Torah, on vous parle d'un père, d'une mère, etc. Est-ce que vous avez un père, une mère, etc. Quoi? Si, ils avaient la même taille. Le problème, c'est que pour eux, père et mère, ça voulait dire autre chose. Eux, ils lisaient ça, toutes ces questions-là. Si vous les lisez de façon très abstraite, vous pouvez lire de cette façon, en termes de métaphore et de. Etc. Ou entièrement au niveau du Sod, au niveau de la Kabbalah, etc. Et pour nous, ça a un sens parce que pour nous, le problème, les animaux sur lesquels on fait la shrita, pour reprendre cet exemple-là, c'est quelque chose de concret pour nous, oui. Enfin, pour certains d'entre nous. C'est vrai, mais ça n'a rien à voir. On veut dire, même étudier ces choses-là, concrètement, ça n'avait pas de sens pour les malachis. On ne peut pas le descendre à ce niveau-là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit pour eux. Il ne s'agit pas de ça. Ça veut dire que, on peut le dire autrement, est-ce que la mitzvah de Kibbud Av V'Em, par exemple, est-ce que cette mitzvah d'honorer, de donner du poids à son père, à sa mère, est-ce que cette mitzvah, elle existe parce que nous avons un père ou une mère? Parce que les hommes se reproduisent de cette manière-là? Non. On se reproduit de cette manière-là parce qu'il y a une mitzvah comme ça. C'est à l'envers. La Torah, elle précède, elle est le plan du monde. Donc elle ne vient pas coller à des situations concrètes. Et donc, évidemment, elle était visible à un autre niveau, sans que on s'occupe de le vivre avec cette espèce d'épaisseur, en quelque sorte. Je ne dis pas du tout qu'ils étaient contradictoires. Seulement, Hachem a dit, il y a une lecture que vous ne faites pas, vous ne pouvez pas faire. Les hommes, ils font toutes les lectures. C'est ça la grandeur des hommes. C'est qu'on fait la lecture abstraite et les lectures à tous les niveaux. Donc Moshe Rabbeinu s'est occupé d'eux, mais il a fait cette prisonnière en quelque sorte.
J'ai une question sur le fait qu'elle soit prisonnière à droite. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un retour possible?
Il n'y a pas de
retour possible. Parce qu'il y a une notion prisonnière, il y a 20 ans, il faut revenir, il faut
plus. Ça, j'ai jamais entendu. C'est possible, mais. Non, c'est définitif. Il l'a enlevé et puis c'est tout, c'est terminé maintenant. Rav Brechia, il revient maintenant. Il dit, alors, mais comment est-ce qu'elle a... Comment ça s'est passé? Ce qui représente la Torah. Les Luchot, c'est pas toute la Torah, mais à ce moment-là, toute la Torah était inscrite sur les premières Luchot. Si on avait vécu d'après les premières tables, on n'aurait pas eu de peine à étudier. Parce que tout était explicité sur les Luchot. Toute la notion de Amal la Torah, de l'effort de la Torah, il vient de ce que nous vivons sur les deuxièmes tables. Sur les deuxièmes tables, c'est le monde du travail, le monde de l'effort. L'étude de la Torah chez Avraham Avinu, on n'entend pas que, par exemple, Avraham Avinu ait eu à faire des efforts pour étudier. Ils ont étudié, mais comme on lit, quoi. Comme s'il suffit de lire pour savoir. Nous, si on lit, on est encore loin du compte. Les premières Luchot, elles étaient comme ça. Tout était contenu d'une manière dans les premières Luchot. Et donc, c'est pour ça que les Luchot peuvent servir de modèle de transmission de la Torah, finalement, de transmission, de descente de la Torah. Alors voilà, ça représente. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Que la Torah, c'était 3 fois 20 centimètres, si vous préférez, ou 3 fois 2 tefachim. Une part c'était tenu par Hachem, une part par Moshe Rabbeinu, et puis il y avait une part pour séparer. Je me demandais quelle est la fonction de cette séparation, cette partie de la. Et en quoi est-ce que ça peut représenter la Torah? Je sais pas, qu'il y ait une part d'Hachem, une part des hommes, et qu'est-ce que c'est que cette partie intermédiaire, le hafrish ben yad le yad, pour séparer entre une main et l'autre. Alors, il y a des tentatives d'expliquer. Regardez, sur la page Shin Aleph, la deuxième page, vous avez à gauche les Imri Yosher. Imri Yosher, vous l'avez ? Oui. L'Imre Yosher, il dit Shne Tfachim Biyad HaKadosh Baruch Hu Hem Chukim. C'est les Chukim. Shne Tfachim Biyad Moshe Hem HaMishpatim. C'est les Mishpatim. U Mitzvot Acherot Hem Tzayot. Et les autres Mitzvot qui sont au milieu. Vechelek Kol Echad Lishne Tfachim. Et chacun avait deux tefach. Yesh bahem nigle venista. Bze diiku lakachta matanot. Ki nitan lecha shne tefachim. Vata lakachta davar nosaf. Donc, bon, c'est un essai, d'accord, de Imre Yosher, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce que ça veut vouloir dire, ça, que la part d'Akadosh Baruch Hu, c'est les Chukim, après la part des hommes de Moshe Rabbeinu, c'est les Mishpatim. Et il y a toutes les autres mitzvot sont dans la part du milieu. On ne s'en rend pas compte de la notion du texte. Oui. Le texte, lui, dit qu'il y avait Shnei Tfachim, Ayu Mafrishin Ben Yad Le Yad. C'est-à-dire, il y a une séparation qui doit se faire entre les deux mains. Bon, ça veut dire comme si il s'agissait de les séparer, les deux mains, et que une fonction, donc d'après ça, une fonction des louchot, une partie des louchot, c'est de séparer les mains. Pourquoi il faut séparer les mains? Il y a déjà une partie qui est dans les mains d'Hachem, une partie dans la main de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on veut dire? Si on n'aurait pas pu avoir trois tfachim pour chacun. À ce moment-là, les mains se seraient touchées. Elles n'auraient pas été séparées. Et en plus, la séparation, d'après ça, hein, on aurait pu imaginer que chacun va avoir deux et demi, et puis une séparation de... Enfin, ou n'importe quoi. Hein. Ils n'auraient pas trois, il y aurait une séparation. Mais il semble que la séparation... elle soit aussi importante que la part qui est dans la main d'Hachem et la part qui est dans la main de Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y aurait de la place pour un troisième acteur, mais il faudrait qu'il soit par-dessus. C'est-à-dire, si on imagine ça, puisqu'on parle ici uniquement dans le sens de la longueur, il y a la longueur, et sur cette longueur, chacun, ils auraient pu avoir un fil, quoi, si vous voulez. Il y a pas, il manque les autres dimensions.
Il y a très longtemps, je me suis dit un jour que dans l'alliance qui est entre beaucoup et les hommes, il y a quelque chose d'impossible. Et peut-être que ce sera un peu cette idée-là, c'est que. Qu'on puisse même recevoir d'Hachem la Torah, c'est quelque chose d'impossible. On reste des hommes. Donc il faut cette distance pour installer une réception.
Oui. Bon, je suis encore d'accord avec ça, oui. Oui, mais pourquoi il faut un No Man's Land? Oui, alors bon, est-ce que tu vas dans le sens de ce que dit Hachel là? Mais est-ce que c'est l'impossibilité? Ou est-ce qu'on ne veut pas le contact? Et puis pourquoi ça, que Yosef disait, c'est qu'éventuellement il y a la place pour un troisième acteur. Parce qu'il y a, il y a autant de... Enfin, le troisième acteur, s'il y en avait un, il aurait une part égale à celle des deux autres. Pardon, c'est... Pourquoi tu dis que c'est lui qui fait le lien? Lui, il tient deux tfachim. Enfin, je vous refais deux tfachim, et il y a... Tu as dit toi-même, il y a un no man's land entre les deux. Bon, je retiens ce point-là, je reviens tout de suite là-dessus. Quelqu'un d'autre a une autre idée? Thierry, on ne vous entend pas. Alors, en plus, si vous voulez, ce qui est décrit là, c'est un peu étrange, parce que, après, Moshe Rabbeinu, il va tout prendre. C'est quel moment qui est décrit ici, où Moshe Rabbeinu tient d'un côté, Hachem tient de l'autre, et il y a ce no man's land, quoi. C'est, il y a un instant, il y a eu ça, mais après, pardon ? Après, il va tout prendre, oui, mais il ne va pas prendre... Hein, il ne peut pas prendre Hachem avec lui, mais il prend tout, il lui arrache les mains. Enfin, il... qu'est-ce que c'est? Oui, bon, disons, on est sur la montagne. Et alors, pour descendre de la montagne, il lui arrache d'abord les mains. Quand il descend, mon cher ami, il est seul à avoir les louchotes. Alors, qu'est-ce qu'on décrit en quoi? Qu'est-ce qu'on nous décrit là? Avant que Moshe Rabbeinu entre, enfin monte, où était la Torah? Dans les mains d'Hachem? Dans oui. Dans ce cas-là, vous, c'est comme si c'était pas que les lochotes n'étaient pas homogènes. Bon, il y aurait deux torotes séparées, quoi, et reliées comme la mère et l'enfant, quoi, quelque part. Oui. Bah, ouais. Regardez ça. Ouais. Yosef, tu veux dire quelque chose?
Dans la... les termes qui sont créés par le jeu de chair, on retrouve le coutil et le chifatine, donc on peut penser à la technologie qui existe des trois groupes, coutil et doute. Mm-hmm. travailler sur lesquels il n'y a pas de temps. Et c'est des témoignages qui et qui ne sont pas pour un statut autre. Moshe est monté, il a, j'allais dire, arraché les troncs. On aurait pu dire qu'il arrache que Yphratim. Parce que celle-là, il va arriver à les transmettre. Il a fallu aller même jusqu'à Troukim, même si c'est des hommes qui sont pour, quand même pour les hommes, parce que c'est pas une hommes qui pour les femmes. Enfin, lui, il va chercher tout. Il ramène même la partie qui, entre guillemets, on pourrait associer le plus à la compréhension par le divin ou à la non-compréhension humaine qui serait les profits.
Je vais proposer une explication, enfin, essayer quelque chose. Je vais prendre appui sur le remords. Le remords, quand il commente la bracha qu'on fait lorsqu'on sort des toilettes. Le remords, il commente la fin de cette bracha, où on dit Mafli la asot. Il dit que le remords dit pourquoi Mafli, ça veut dire Pélé. Oui. Pélé, c'est le contraire du Aleph, et à l'envers, et c'est totalement extraordinaire. Qu'est-ce qui est tellement extraordinaire, explique le remords. Il dit c'est que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que le spirituel, la vie spirituelle, dépendent de choses qui sont complètement matérielles. Quoi. On le fait au moment de la bracha, où l'homme est dans la condition la plus matérielle qui soit. Et le pelé, la plia, c'est Hachem a relié les deux choses en même temps. Ces deux choses. Il a mis en même temps ces deux choses. Et alors, je me suis demandé si, un peu d'après ce que vous aviez essayé de dire, que il y a la part d'Hachem, il y a la part des hommes, et le fait, si je pense que la part d'Hachem, c'est ce qui serait purement spirituel, et il y a même la part qui est extrêmement matériel. Et puis, là, il y a toute une part qui est la plia, qui est justement cette part absolument. Il n'y a pas de troisième instance, il n'y a pas de troisième personne ou, enfin, dans cette affaire. Il y a ce côté complètement extraordinaire qui fait que les deux choses peuvent se lier tout en étant. Alors, ici, le lien entre les deux est fabriqué par quelque chose qui sépare. Ça veut dire, comme on a vu, c'est les deux tfachim du milieu viennent séparer miyad le yad entre les deux. Mais cette séparation, c'est toujours comme ça d'ailleurs. Quand vous mettez une séparation, eh bien vous pouvez aussi la voir comme étant un lien. Ça ne peut pas séparer si ça ne lie pas aussi. Il y a aussi une lecture de la chose qui sépare. Vous mettez un mur, mais ce mur, il sépare, mais il lie aussi. Il a une fonction de séparation, mais qui est aussi une fonction de liaison. S'il n'y avait pas... Bon, automatiquement, par le mur, par le fait que des deux côtés du mur, on touche le même mur, si vous voulez, ou que si vous mettez n'importe quelle séparation, automatiquement, elle relie aussi. Et donc, ça vient séparer les domaines au sens où c'est radicalement différent. Le domaine d'Hachem et le domaine des hommes, ce sont deux domaines complètement différents. Et néanmoins, ils sont reliés ensemble. Néanmoins, ils sont reliés. Qu'est-ce qui est relié? Ce qui est relié, c'est un peu ce qui avait été dit avant, ce que disait Rachel. Chaque fois que Hachem propose une alliance aux hommes, c'est totalement incompréhensible. Qu'est-ce que c'est que cette alliance? Aujourd'hui, ça, les gens ils ne le comprennent pas, mais peut-être ici vous êtes un peu plus âgé, peut-être que vous pouvez comprendre ce dont il s'agit. Ça ressemble beaucoup au traité de coopération qui avait été signé entre la Chine et l'Albanie. Ça voulait dire que si jamais la Chine était attaquée, l'Albanie viendrait la défendre. C'est un peu comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? On ne peut pas être en alliance avec Hachem. On n'est rien, on est une créature. Comment la créature peut être en alliance avec le Créateur? C'est impensable. Ça ne veut strictement rien dire. Sauf que, puisque c'est dit, ça veut dire que Hachem, avant, d'abord, il nous met en position d'être des partenaires possibles. Donc il nous élève pour que nous puissions être partenaires. Un peu comme quelqu'un qui voudrait, on veut aider un pauvre. On dit, ben écoute, tu vas venir, tu seras partenaire dans mes affaires. Et qu'est-ce qu'il va amener? Il n'a rien à amener. Ben si, je vais lui prêter de l'argent. Maintenant, il a de l'argent. Et on va faire une affaire ensemble. Il met de l'argent qu'il a maintenant, que je lui ai prêté, mais maintenant c'est son argent. Et donc il est devenu un partenaire possible. Il est le partenaire, lui il met un, moi je mets un, voilà, on a fait une société ensemble. On peut partager les bénéfices, etc. Ah, et je lui dois, ça c'est une autre affaire que je lui ai prêté. Mais j'en ai fait un partenaire possible. À Kadosh Baruch Hu, chaque fois qu'il y a une alliance, que ce soit avec Abraham Avinu lui-même, ou que ce soit avec le clan d'Israël par la suite, c'est toujours d'abord tout un travail d'élever l'homme ou les hommes pour qu'ils soient des partenaires possibles, pour que ça ait un sens. Donc Hachem, ça c'est la plia, ça c'est le côté plia, le côté extraordinaire qui fait qu'il peut y avoir une alliance. Ils tiennent tous les deux la même chose, n'est-ce pas, quand on tient ensemble. Alors c'est une façon de dire qu'on est partenaire. Il y a un partenariat entre les... Mais l'important, hein, c'est de ne pas mélanger. Il faut pas... Si on fusionne les choses, on est perdu. Deux partenaires, ils ne sont pas en fusion. Il faut que ça puisse circuler de l'un à l'autre. Et ça ne peut circuler de l'un à l'autre que s'il y a de l'espace. La fusion, ça ne permet pas la transmission. Parce qu'on ne peut rien transmettre parce qu'il n'y a pas d'espace pour transmettre. C'est pour ça que la Torah est tellement contre la fusion. Et que la fusion de même la fusion du maître et de l'élève, la fusion, c'est très mauvais. Il n'y a plus de maître et d'élève. Dans cette fusion, qu'est-ce qui va arriver? L'élève, il va disparaître dans le maître. Si le maître... Donc, il faut préserver la distance. Il faut être sûr de garder la distance. Et donc, ce qui sépare est la condition de la possibilité d'être ensemble. Et donc, en fait, j'ai l'impression que quand on nous dit que Hachem tient, etc., c'est pas du tout, on n'est pas du tout en train de nous raconter qu'il y a eu un moment où c'était comme ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Il y a juste au moment où il a brisé les luchot, Moshe Rabbeinu a arraché et il a jeté, il a cassé. Il a cassé pour qu'il n'y ait plus rien entre... Bon, il n'y a plus de témoignage de ce qu'on est... Bon, il n'y a plus de traces. Il n'y a plus de traces des obligations du clan d'Israël par rapport à Hachem. Il n'y a plus de traces du partenariat. Pour que les Bnei Israël ne soient pas accusés d'avoir rompu le partenariat. Il a cassé la trace du partenariat. Mais c'est toujours comme ça. C'est le mafli la saute, la bracha qu'on fait quand on sort des toilettes. C'est ça qu'il s'agit. Et j'ai l'impression que c'est ça que le Midrash veut dire ici. Ils tiennent, chacun tient Et puis il y a cette partie qui sépare mais qui lie en même temps, qui est la condition de la liaison possible. Pour qu'il n'y ait pas de fusion. Si les mains étaient ensemble, évidemment on disparaîtrait complètement dans la chaîne. Chez nous, il n'y a pas de fusion. Il n'y a pas assez de temps, ce qui existe dans la mystique chrétienne, où s'abîme dans la divinité. Chez nous, il y a une notion de dvekut. On peut coller au plus près, et c'est jamais que coller. C'est pas, il n'y a pas de fusion, c'est pas fusionné. Donc, quand on colle, les deux parties restent deux parties. Elles sont collées, mais c'est deux parties. Une dvekut, on peut être au plus près, mais c'est toujours séparé. La vraie condition, tenir compte de la différence entre la créature et le créateur, ben il faut ces deux tfachim qui sont la séparation. Alors je ne sais pas, bon, on peut toujours dire que c'est les chukim et les mishpatim, mais je ne suis pas tellement en faveur de cette lecture-là, parce que j'ai appris de Pascal Abramski que c'est pas vrai que les mishpatim, c'est le social, c'est ce qui existe ailleurs. Les mishpatim de la Torah, hein, ils sont sur le même plan que les autres mitzvot, que les chukim. C'est les mishpatim de la Torah. Si la Torah donne un mishpat qui est exactement le même que le code civil ou le droit romain ou le common law, ce que vous voulez, j'ai toujours pas le droit d'aller au tribunal des goyim qui va dire exactement la même chose que ce que dira le Beddin. Et je ne peux pas y aller. Je ne peux pas aller me faire juger. Parce que je reconnais, dans ce aller au tribunal pour ce mishpat-là, c'est reconnaître la totalité de la loi en question. Et donc, c'est se couper de la Torah. C'est prendre une loi que je mets contre la Torah. Que je la compare et je fais la même chose. C'est ça qui est important. Donc même les mishpatim sont des mitzvot. Il n'y a pas besoin de moi pour ça, mais je ne suis pas très d'accord avec ce genre d'explication, parce que j'ai l'impression que ça banalise les mishpatim. Et donc je crois que c'est ça que le Midrash veut dire. Alors le Midrash continue, il dit...
Quel lien y a-t-il entre ce qu'on vient de voir et Amida?
Mais c'est ça. Moshe Rabbeinu, il s'est élevé, d'accord, Alita, c'est-à-dire, tu as eu un conflit, parce qu'il y avait ce problème de que la Torah, d'abord, il faut reconnaître que la Torah, elle existait, et puis il y a cet argument qui est... comme disait Yaakov, qui pourrait se défendre, que la Torah, elle devrait rester quelque chose de très élevé, de très... C'est un peu comme ce que nous disons dans le Hallel. On dit, dans le premier paragraphe du Hallel, on dit « Rom Ram al kol goyim, Hachem ». Pour tous les goyim, pour tous les peuples, Hachem est très élevé. « Al hashamayim kvodo ». Sa gloire, il la met au-dessus des cieux. Mais nous, nous ne disons pas comme ça. Nous, nous disons « Amashpil ilirot hashamayim uva'aretz ». C'est-à-dire, il est encore bien plus haut que vous imaginez. Parce que dans le ciel, pour regarder le ciel, ou mashpil, il regarde de haut en bas. Mais il regarde sur terre aussi. « Amashpil ilirot hashamayim uva'aretz ». Il s'intéresse aussi à ce qui se passe sur terre. Et pas, non, on va le mettre dans les hauteurs, pas s'occuper de ces problèmes. Ça a toujours été un problème. D'accord ? Que des divinités, même la Avodah Zarah, même Paro, c'était son problème, le Paro de Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne suis jamais que le gestionnaire de ce que le Nil nous donne. D'accord ? Il faut que je sois au-dessus de cette question-là. Alors Yosef lui a dit, oui, tu vas être au-dessus. C'est comment ? tu vas me nommer moi gestionnaire, comme je suis un esclave, tu risques rien, je suis un hébreu, je ne vais pas te prendre le pouvoir, et du coup, toi, tu vas te retrouver tout en haut, dégagé de toutes les conditions, de tous les soucis matériels, etc. Ça, c'est l'intendant, c'est n'importe qui s'en occupe, etc. Donc ça lui permet d'être, comme il dira, qu'à qui c'est, c'est-à-dire qu'en fait, tu feras tout, et moi, je suis sur le trône. C'est ça son idée. Être un dieu. Être un dieu, c'est-à-dire complètement coupé de toutes les... Et nous, on fait le contraire. On pourrait dire qu'on est en train de profaner toute cette histoire. On veut qu'il s'occupe de tout. On le reconnaît comme étant présent partout. Au point qu'on a des problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je vais aux toilettes? Est-ce que je dois arrêter de réfléchir à une question de Torah? Oui, la phrase est comme ça. D'accord? Mais on a ce problème.
Cet arrachement, ce combat contre le monde, il n'est pas une pièce. Dans la mesure où, si nous n'avions pas accepté la Torah, c'est par ailleurs, le monde aurait été détruit. Donc, c'est aussi. Donc, le monde a été créé que.
Je me suis perdu en chemin. Allez-y, encore une fois, s'il vous plaît. Sur la contradiction.
Le monde a été créé, notre monde,
oui.
A été créé que pour la Torah, que pour recevoir la Torah. Et que si nous ne l'avions pas
accepté,
si nous l'acceptait, oui. Le monde
serait revenu à son chaos initial, oui.
Donc on ne peut pas, d'un côté, avoir cette version. Nous n'existons que pour recevoir la Torah, et d'un autre côté, on l'a arraché parce que c'était deux mondes, le monde spirituel et notre monde sont tellement distants que c'était quasiment impossible de la faire descendre. C'est contradictoire.
Justement, c'est ça le travail, c'est reconnaître que bien qu'il y ait cette distance quasiment infranchissable, Hachem a décidé de nous la faire franchir. Et que nous devons aller chercher la Torah. Pardon ?
C'était prévu depuis le début.
Oui, bien sûr. Mais en attendant, il était prévu. Tout est prévu. Oui, mais tout est prévu. Mais il faut que les hommes soient capables de le faire. Il faut que les hommes se donnent la capacité de le faire. Alors, nous, jusqu'à présent, jusqu'à la fin, au moment où Hachem va faire passer Moshe pour Abraham, on a l'impression que c'est le mérite de Moshe. On a l'impression que c'est un problème purement de Moshe. Et c'est juste à la fin que le Midrash dit, mais un instant, Hachem, pour faire passer la pilule, si on peut parler comme ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais vous voyez bien, c'est Abraham. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous les anges, vous avez mangé chez lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ils sont partis sans payer. Qu'est-ce qu'il leur dit quand il dit vous avez mangé chez
vous?
Votre mission, c'est de travailler. Vous avez une relation avec eux.
Vous-même, vous n'avez pu faire.
Décisionner.
Oui. Donc ça veut dire, oui. Donc ça veut dire que le but de l'exercice, c'est un peu, comme on dit, qu'est-ce qui est plus grand, le Talmud Torah? Pourquoi? Parce que ça m'évite le midima assez. Parce que Talmud Torah, hein, il mène au Maasé, il mène à l'action. Une action conforme, c'est à une action qui est une action divine. C'est les hommes qui agissent divinement. Agir conformément à la Torah, c'est agir divinement. Au nom de la loi de la Torah, enfin au nom de la Torah, exactement comme un flic, il agit au nom de la loi. Et donc il peut plus que ce qu'il peut. Nous aussi, on peut plus que ce que nous pouvons. Parce que nous agissons au nom de la Torah. Mais c'est Hachem qui nous a donné ce pouvoir. Comme c'est l'Avdil, c'est le, je sais pas quel, c'est le, je sais pas qu'est-ce qui fait que ils sont assermentés ou je sais pas quoi, et qui fait que bon, ils ont ce pouvoir. Que entre leur parole et la mienne, c'est leur parole qui prime. Pourquoi? Ils sont plus honnêtes que moi. c'est parce qu'on leur a donné ce pouvoir. Là, les Bnei Israël, qu'est-ce qu'on a de plus, nous? On n'a rien de plus, c'est que Hachem nous a donné ce pouvoir-là. Il nous a donné ce pouvoir avec la tâche de faire les choses. Mais on reviendra sur cette partie-là, ce qu'on va faire un peu tard.
Et les anges ne savaient pas ça. C'est pas, ce ne sont pas les envoyés d'Hachem.
Si, mais vous voyez bien, Hachem leur dit, c'est vous que je vous ai envoyé. Mais qu'est-ce qu'ils veulent les anges ici, tel que j'ai compris de ce que dit le Midrash au début, de Nitalita, ça veut dire tu t'es élevé. Et c'est les hommes qui pensent ce qui est mis ici dans la bouche des anges. Vous pouvez le voir sous la forme des anges, mais c'est bien les hommes qui pensent ça. C'est les hommes qui pensent, mais comment est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il ne faut pas... Si on veut penser, alors il faut se mettre dans un ashram, ou si on veut penser divinement, il faut se mettre dans un ashram, ou dans un couvent, ou etc. Se couper de toutes les contraintes matérielles pour méditer.
Ce ne sont pas des anges dans le sens traditionnel.
Est-ce que vous connaissez le sens traditionnel des anges?
Celui que j'ai retenu de ce que vous avez dit à plusieurs reprises,
c'est la parole divine.
Ils avaient voilà, une parole et une mission à accomplir, c'était leur rôle.
Tout à fait.
Alors là, vous êtes en train de dire que finalement, c'est nous qui fabriquons.
Parce que c'est nous qui fabriquons la fausse idée des anges. Puisque leur rôle, c'est de venir sur Terre et de régler les problèmes comme Hachem leur a dit de faire. Mais ils sont bien en contact avec le monde matériel. Ils sont là. L'ange, c'est la... Je ne sais pas, pour moi, la gravitation, c'est un ange. Oui. Je vous ai déjà dit, je connais aussi l'ange qui... L'ange qui frappe chaque brin d'herbe pour lui dire de croître. Je connais même son nom, je vous ai dit. Il s'appelle l'hormone de croissance. Oui. C'est tout. On connaît son nom, celui-là. Je ne connais pas le nom latin, mais bon. L'hormone de croissance. Il a fait des dégâts, d'ailleurs.
En fait, c'est un truc qui a un caractère obligatoire de cet affrontement en fait, avec les gens.
Si tu expliques ce que tu veux dire par obligatoire.
Et on ne peut pas pour faire descendre la Torah sur Terre, on ne peut pas ne pas se colter à ce problème-là.
Oui, c'est ça. Le Midrash, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait le Midrash? Il soulève un problème que nous avons. Il ne fait pas n'importe quoi. Il y a un problème. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ça le problème. Alors il le traite, c'est ce que j'en comprends, disons, c'est ça. On reprendra la fin parce que c'est un peu tard.